surprendront par leur étonnant métissage de rythmes rumba, zouk et gospel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Suivez Le Monde au Carnaval sur Facebook et YouTube.
Le Mois Multi, festival d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'espace 400e, expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit?
Consultez la programmation au moismulti.org.
Bonjour, ici Iliari. Le ministre des Transports François Bonnardel et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, soulignent le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de requalification pour le pont de l'île d'Orléans. Ces travaux préparatoires à la construction d'un nouveau pont débuteront dès ce printemps et se poursuivront jusqu'en 2024. Le pont actuel arrive à la fin de sa vie utile. Un nouveau pont à Auban d'un peu plus de 2 km sera construit pour relier l'île d'Orléans et la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le projet vise à réaménager la côte et son intersection avec le chemin royal afin d'améliorer la fonctionnalité et la sécurité de la route. Cela comprend notamment la reconstruction de la chaussée, l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage et de signalisation, la sécurisation des abords et le réaménagement de l'intersection. En plus d'offrir une vue unique sur Québec, ce pont constituera le plus important chantier du ministère des Transports. Le réseau des professionnels noirs de KPMG au Québec et Baïoumou ont le plaisir de vous présenter événements culturels autour de la littérature et de l'histoire afro-canadienne. Le rendez-vous aura lieu sur Zoom de 17h à 18h30 ce jeudi 17 février. Cet événement complètement gratuit a pour objectif de promouvoir la littérature afrodescendante et de mettre en avant l'histoire des Canadiens noirs. Au programme, lecture de poésie par Baïoumou et Ahmed Hachadam, accompagné du musicien Tommy Tiké. La lecture sera suivie d'une conférence historique animée par Samia Dumay, assistante de recherche pour le groupe Histoire, Femmes, Genre et Migration de l'UQAM. Une séance de questions-réponses et un tirage au sort viendront clôturer la soirée. Ce mercredi 16 février 2022, de 19h à 22h, aura lieu l'Assemblée régulière virtuelle du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la présentation du projet Espace 13-2 suivi d'une période de discussion, la présentation du fonds éco-responsable de la Caisse des Jardins de Limoilou, puis une période d'échange et d'information avec la conseillère municipale. L'Assemblée générale du quartier Saint-Sauveur aura également lieu ce soir à 19h sur la plateforme Zoom. Y seront présentés le projet de recherche laboratoire citoyen et la résolution concernant le rehaussement des normes de nickel et la qualité de l'air. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Ville de Québec. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour.
Bonjour et bienvenue à l'émission de Jean-Denis Tarasseux sur les ondes de CKIA-FM 88.3. Je m'appelle Larry Hodgson et je suis avec vous aujourd'hui pour parler de jardinage. Là, j'ai quand même deux petits sujets avec lesquels j'aimerais commencer. Premièrement, juste pour dire que mon... j'ai pas pris de photo parce que je sais pas trop comment présenter les photos sur... je sais pas comment fermer mon téléphone non plus, c'est évident.
Ah, les téléphones en ligne, en direct à la radio ou à la télé, mon cher Larry.
Voilà. Alors, je vais fermer. Voilà.
On ferme complètement, ça règle le problème.
Donc, la question est la suivante. Deux choses. Premièrement, chez moi, une de mes plantes est en fleurs. massivement en fleurs, c'est le Neomerica. Neomerica, on appelle des fois iris marchand ou plante apôtre, parce que paraît-il qu'il faut qu'il y ait 12 feuilles pour fleurir, ou encore on appelle iris intérieur. C'est une plante à feuilles vertes qui fait des belles fleurs blanc, bleu, orange, mais pas souvent. Et quand ça fleurit, ça ne dure que 24 heures. C'est que quand ça fleurit, tantôt en deux, mon micro est coupé. J'espère que c'est revenu. Bon. Et j'en parle au Michel. Bon. Cette plante-là, finalement, fleurit seulement une fois par année. C'est formative, mais ça dure 24 heures. C'est qu'il faut profiter par le. Après que le vôtre en plein, vous le fleurir. Si oui, c'est bien présent, mais profitez-en. L'autre commentaire à faire, la semaine dernière, je n'ai quand même pas parlé de comment produire ce plan-là, les chaleurs françaises, parce que je viens confondu avec les différents chaleurs. Les chaleurs de la Saint-Anne, le Job, c'est comment on fait, du coup, c'est un chaleur, c'est un camion vert, puis là, français, c'est dans ma tête, ça va donner les pompes, j'ai arrêté de nouveau pour aller.
Larry, on va attendre deux petites secondes. Ton son est pas très bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Autant moi que Marlène, on entend très mal. Ça coupe beaucoup. Donc, je pense qu'on va demander à Marlène de mettre une petite musique les quelques secondes à Sequoia, le temps que nous, sur Facebook Live, on règle le problème. Ça va prendre quelques secondes à peine. Donc, Marlène, s'il te plaît, si tu peux mettre une petite musique sur Sequoia FM. Nous, on règle ça sur Facebook Live et on revient dans quelques secondes. Ce sera pas bien long.
Comme je l'ai longtemps redouté, les vieilles amitiés ramollissent, on devient plate comme des polices. On est loin de notre époque rock quand on organise des potlucks le vendredi jusqu'à minuit. J'essaie de rester de bonne humeur comme si ça me rendait pas anxieux, de devenir un stéréotype sur une terrasse dans une banlieue. Le plus souvent, j'ai rien à dire, il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Anyway, vous êtes bien partis, continuez à compter vos vies. Pendant longtemps, 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 longtemps.
Tour.
Pendant longtemps, 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 longtemps.
Bon,
c'est mieux.
C'est mieux maintenant?
Oui.
OK, donc, je vais te répéter dans ce que j'ai dit au début, puisque...
Oui, s'il te plaît, parce qu'on n'a absolument rien entendu. Okay. En réalité, on entendait un mot sur deux de ce que tu disais. Donc, malheureusement, chers auditeurs, on va reprendre ce que Larry nous expliquait il y a à peine quelques secondes. Je te
souhaite. OK, on recommence ça. Bonjour tout le monde. Je dis que mon Neomerica est en fleur aujourd'hui. Neomerica, c'est quoi? C'est une plante intérieure qui ressemble à une iris, on appelle des fois iris marchand ou iris d'intérieur ou plante apôtre. Apôtre parce qu'il paraît qu'il faut qu'il y ait 12 feuilles avant de fleurir. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas compris. Donc, une plante qui ressemble à un iris avec des belles fleurs blancs et bleues avec du jaune au centre. Et les fleurs ressemblent à des fleurs d'iris, effectivement. Mais il ne dure pas longtemps. Ça dure 24 heures. C'est déjà fini. Et la plante fleurit par journée. Avoir une journée avec 100 fleurs, plus rien après. Pendant des mois, tout d'un coup, encore 20 fleurs. Actuellement, le mien est en fleurs. Et si jamais vous avez cette plante-là, il ne faut pas vous attendre une floraison continuelle. C'est par bout, mais c'est quand même intéressant quand ça fleurit. Mais il ne faut pas pour les gens qui sont impatients, par exemple. Une plante qui fleurit une journée par année ou deux par année, peut-être pas fort pour ces gens-là. Aussi, la semaine dernière, j'ai une question sur l'échalote française. Et je te mêlais dans ma tête, bon, peut-être mon grand âge, ou certainement je mérite ça, cette nature. Parce que l'échalote, j'ai tendance à mélanger échalote comme mot. Comme mon épouse dit échalote, elle veut dire un oignon vert. Bon. Et pour moi, c'est pas un échalote, c'est un oignon vert. Aussi, l'échalote, le Sainte-Anne, qui personne ne sait qu'est-ce que c'est. C'est un grand mystère au niveau botanique. Personne ne sait quelle sorte d'hybride ça peut bien être. Sûrement l'hybride, mais quoi? On ne sait pas trop. Et aussi l'échalote française. Donc, je suis fouillé un petit peu pour avoir des détails là-dessus. On le considère maintenant comme une forme d'oignon. C'est effectivement l'oignon. Mais une forme d'oignon qui fait plutôt que de faire un gros bulbe, c'est plus de plus petit et en groupe. Donc, c'est ça l'échalote française. Le moment idéal pour le planter, ce serait la fin de l'été ou à l'automne, commencer avec l'ail, puisque le plant est très rustique. Zone 2 ou 3 même. Ce n'est pas un problème. Et vous laissez mûrir. Quand le feuillage commence à jaunir, plutôt que l'ail, par contre, au mois de juillet d'habitude, vous récoltez et vous laissez une partie en terre. Cette partie-là va faire encore d'autres plantes l'année suivante. Puis c'est une plante permanente, une culture permanente. Et on peut aussi la semer au printemps. On peut acheter des bulbes au printemps et les planter. Ça ne vous donne quand même pas une grosse, grosse production. Et c'est une deuxième façon de cultiver cette plante-là. Donc, voilà pour la réponse à la question de la semaine dernière. Maintenant, on va demander à Michel s'il y a des questions pour cette semaine.
Bien sûr qu'il y a des questions. Il y en a plusieurs déjà, d'ailleurs. On va y aller avec une première de Claire Messier qui dit « J'aimerais savoir la marche à suivre, les trucs pour partir des graines de pavot bleu. » Merci.
Oh! La meilleure chose pour pas lever des pavots bleus, ce serait d'aller au jardin de la métisse, faites-vous engager pour tomber dans les serres. Ce serait la meilleure façon. C'est une plante très difficile. Très difficile. Et vous ne dites même pas où vous restez. Le pavot bleu ne tolère pas la chaleur. C'est une plante adaptée aux montagnes. Ça réussit dans le bon fleuve, puisqu'il fait vraiment très chaud, mais c'est une plante qui n'est pas adaptée aux conditions de chaleur. Donc, normalement, on peut le cultiver à partir de Québec, en allant vers l'Est ou dans le Nord. Mais pas à Montréal, pas à Drummondville. C'est pas possible. La plante ne se vit pas. Il fait trop chaud. Les semences sont plus chères et difficiles. L'idéal pour cette plante-là serait de la semer à l'automne et de laisser germer au printemps. Parce que ça prend un traitement au froid. Les graines sont minuscules, comme la farine, mais c'est dans des plantes minuscules qui sont très fragiles. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué. Vous avez une plante qui est difficile sur toute la ligne. Dans la nature, ça se vit très bien, parce qu'il y a peu de compétition en haut des montagnes, près des glaciers où ça pousse. Mais chez nous, c'est pas une plante qui fait le poids tellement. Moi, je vous suggère, si vous aimez des fleurs bleues, plantez quelque chose d'autre. Les myosotis, ne m'oubliez pas, c'est bleu, ça c'est bien. Il y a aussi peut-être d'autres plantes semblables. Mais le pavot bleu, c'est pas évident. Moi, je l'ai fait une fois, je tolère les résultats. J'ai quand même eu des fleurs, ça a pris 3 ans, 4 ans même. Mais trop compliqué pour la plupart des jardiniers. Commencez. Même si vous êtes un expert, c'est pas un bon sujet. Voilà.
Alain Boulay, que pensez-vous des oignons égyptiens? Plantes vivaces et comestibles?
Moi, c'est très bien. L'oignon égyptien, vous savez, l'oignon est une plante mystère à bien des niveaux. On sait très bien que ça vient d'Asie. C'est pas quand. Il est des croisements avec d'autres espèces. C'est compliqué. Et différentes formes d'oignons font différentes choses. Dans le cas de l'oignon égyptien, c'est pas une plante qui fait un gros bulbe. Son bébé petit. Mais il produit une tige sur laquelle les fleurs deviennent des bulbilles. Et c'est les bulbilles d'habitude qu'on récolte. Donc, normalement, on va le récolter en plein été, quelques bulbilles à la fois. Il faut les peler, les utiliser. Et on laisse la plante en terre. Donc, ça revient dans l'année. C'est une plante permanente. Un légume vivace. La façon dont ça fonctionne dans la nature est que la plante pousse, fait une tige florale, quelques fleurs, rarement des graines par contre. Et une fois que les bulbes commencent à se former, le poids des bulbes fait que ça tombe sur le côté, à côté de la plante mère, et ça s'enracine. Ça que la plante se multiplie de cette façon-là. Donc, c'est une plante facile, saison 2, sans difficulté, on peut le cultiver en permanence, faut juste surveiller les ennemis, c'est à quoi faire. Autrement, c'est une plante intéressante, mais je trouve ça un peu difficile à peler, c'est tellement petit. En tout cas, voilà, un légume, au moins c'est un légume vivace, et ça, on en cherche toujours.
Aiden Knight écrit... les plantes dans ma serre vitrée, loin des fenêtres, à 80 % d'humidité, 14 heures d'éclairage par jour et ventilateur 24 heures, ont une grosse poussée de croissance depuis 3 semaines. Comment ont-elles senti l'arrivée du printemps dans ces conditions?
C'est quand même une serre, même si vous avez un éclairage très intense, 14 heures, c'est quand même excellent. C'est comme toujours le printemps. Il reste quand même qu'il y a des rayons de bord. D'un côté, les rayons qui parviennent à la plante de l'extérieur. Et quand les jours rallongent, je ne veux pas, ça stimule une réveil chez les plantes. Deuxièmement, c'est un premier facteur, deuxièmement, les plantes prennent un certain rythme. Et même sous des lampes fluorescentes au sous-sol, l'aide d'elles au sous-sol, les plantes prennent un certain rythme quand elles décident qu'elles fleurissent toujours environ vers le 14 de mars, la plante va peut-être revenir fleurir la même date l'an prochain. Donc, c'est peut-être d'abord une partie causée par l'éclairage extérieur. Mais les plantes ont pris le rythme de pousser de cette façon-là. Ils vont regarder au moins que vous faites un changement. Mais quand on a un bon éclairage, les plantes vont bien, c'est incroyable. Et une bonne humidité aussi, c'est certain.
Anne-Marie Gina a, je trouve personnellement, une question très intéressante. Pas que les autres ne le sont pas, mais elle est très intéressante, je trouve. La date de dernier gel par région est-elle la même année après année? On a hâte, entre parenthèses. Et elle écrit, sinon, qui la détermine et comment?
Ah, oh, ça, c'est compliqué. C'est que différentes personnes le disent différemment. Différentes autorités. Souvent, c'est une moyenne. Habituellement, c'est une moyenne. Donc, on va calculer, si c'est, disons, Agriculture du Canada, ils vont prendre la moyenne. Ils vont dire, sur les derniers 20 ans, en moyenne, c'est tombé cette date-là. Le dernier gel dans telle région. Ce qui veut dire pour le jardinier, eux, ils gèlent une fois sur deux à cette date-là. Donc, ce n'est pas vraiment la date du dernier gel. Personnellement, je prends cette date-là et je rajoute 2 semaines. Habituellement, si je fais ça, la date qui est donnée par le gouvernement, où vous trouverez sur les sites web, sur les dates de dernier gel, ce n'est pas vraiment la date de dernier gel, c'est la date moyenne de dernier gel. Donc, bien des choses peuvent changer d'un année à l'autre. Mais habituellement, si vous ajoutez 2 semaines à ça, pour la plupart des régions, vous êtes pas mal prêts à la réalité. Et l'idéal, ce serait de garder d'année en année et des notes là-dessus. Et comme ça, vous aurez une meilleure idée si vous êtes en avance ou en arrière par rapport aux autres. Et moi, habituellement, je calcule 2 semaines après. Donc, dans ma région, où théoriquement, la date d'un dernier gel, c'est comme dans la dernière semaine du mois de mai, moi, je calcule à la fin de la première semaine du mois de juin. Pour que, quand je veux faire mes calculs, quand je bats, c'est le 11 d'habitude, juin, chez moi, quand je fais mes calculs de semis. Comme ça, la plupart du temps, je suis bien correct pour les commencer au moins à les acclimater. C'est vers le 11 juin. Des fois, il fait encore froid, mais souvent, je suis capable de les sortir à cette date-là. Voilà.
Aiden Knight a une deuxième question et la façon qu'il l'apporte, je trouve ça vraiment drôle. Si jamais vous manquez de questions, je pense pas qu'on manque de questions ici à l'émission, mais il dit en voilà une deuxième. Quel est l'impact sur la croissance d'un petit plant de potes de 3-4 pouces environ de Oya, de Scadapus ou de Philodendron de couper un nœud pour bouturer ou une feuille abîmée?
Ben, si vous enlevez une feuille, ça ne change pas grand-chose. Si c'est un nœud pour bouturer ben, le plan va simplement reprendre. Ça ne ralentit pas beaucoup. Oh, il y a plus que d'autres, parce que oui, c'est un peu spécial. Si vous connaissez l'OE, vous savez que ça ne pousse pas, ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. On dit, voyons, ça ne bouge pas. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Puis, difficile de savoir. Par contre, les films d'Atus ou Protoss et les films de Nandro, habituellement, sont plus fiables. Si vous coupez donc, une section en bas de nœud, le plan va assez rapidement, selon la saison, bien sûr, prendre des nouvelles pousses, nouvelles feuilles. Donc, ça ne signifie pas beaucoup.
Donc, on va pouvoir y aller avec une autre question. Marie Trudeau a écrit « J'ai une plante annuelle Mondevilla qui, en hiver, fait de longues tiges. Est-ce que je dois les couper pour qu'elle refasse des feuilles à la base? Elle a perdu beaucoup l'été dernier. »
Oui. Cette plante-là, la Mondevilla, est une grande plante tropicale. On l'utilise comme annuelle depuis quelques années. Ça fait longtemps qu'on l'utilise comme plante intérieure, par contre. Et elle, dans la nature, elle n'a pas de période morte. Il fait, c'est sous les tropiques, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, donc ça pousse à l'année. Donc, rendu chez nous, la plante a un peu de difficulté. Parce que, à la fin de l'été, les jours raccourcissent. C'est pas normal pour cette plante-là. Elle essaie de continuer de pousser, mais elle fait des tiges minces, des petites feuilles, elle se fatigue. Donc, c'est un peu plate. Donc, ce qu'on a, en fait, deux choses avec le Mondevilla. Une des possibilités, c'est de le mettre en dormance, le forcer à dormir à la fin de l'automne. Dans ce cas-là, vous prenez la plante, vous allez au tournoi de l'automne. Vous arrêtez les arrosages. Vous mettez dans une pièce fraîche. L'éclairage n'est plus nécessaire. Et vous arrêtez d'arroser. De temps en temps, au cours de l'hiver, vous vérifiez. Les feuilles vont tomber, bien sûr. Et quand vous voyez que le terre est super sec, vous arrosez un petit peu. Vous le gardez à peine en vie pendant l'hiver. Et là, vous reprenez au mois de mars avec les meilleures conditions et ça repart. Et vous aurez besoin de taille parce qu'elle va perdre beaucoup de branches dans ce cas-là. Si vous gardez en croissance, ralentissez quand même les arrosages d'hiver. Et certainement pas d'engrais. Il faut les postimer la croissance. Et dans tout l'hiver et jusqu'au mois de mars, coupez les tiges qui poussent. Parce que la plante va essayer de monter des tiges faibles. Tant qu'il n'y a pas d'éclairage, il ne faut pas le laisser faire. Donc, couper les tiges qui poussent. Et à un moment donné, quand le soleil revient enfin, disons, fin de le 21 mars ou 22 mars, c'est à partir de là qu'il y a 12 heures de lumière et plus. Donc, à partir de là, peut-être une semaine avant ça, vous pouvez arrêter et laisser les plantes repousser. À partir de là, par contre, maximum d'éclairage, maximum d'humidité et de l'engrais. C'est une plante qui a besoin d'engrais. Oui. Voilà pour le. C'est une très belle plante, mais un peu difficile. C'est pas vraiment fait pour être une plante qui rentre à l'automne. Mais on peut forcer à le faire.
Danny Marin écrit quand a commencé à arroser les langues de belle-mère après l'hiver? Et peut-on les sortir dehors l'été?
On peut les arroser l'hiver. Hein? Ça dépend au moins que ce soit une pièce très froide. On peut les arroser l'hiver. Aucun problème. Il s'agit de ne pas arroser beaucoup. Parce que la croissance est à peu près nulle pendant l'hiver. Mais on peut arroser tout l'hiver, mais modestement. Et est-ce que vous pouvez sortir l'été? Bien sûr. Il s'agit de les mettre à l'ombre au début, puis à la mi-ombre, après quelques jours, et peut-être au soleil à la fin. Et ça va leur faire beaucoup de bien. D'ailleurs, vous remarquerez que les langues de belle-mère ou sensiblières qui passent l'été à l'extérieur, c'est souvent les plantes qui vont fleurir par la suite. Donc, ça nous dit que cette visite en plein air leur plaît au maximum. Ça leur fait beaucoup de bien. Voilà.
Mucintonge, merci pour votre recherche sur l'échalote française. C'était ma question de la semaine dernière. On va y aller avec une autre question maintenant. Carole Denis. Je débute mes bulbes de glaïeul dans des pots pour ensuite les transplanter au jardin. La floraison est magnifique, mais le plant a tendance à trop pencher.
Ah, Ça, c'est le problème des gléoles. Vous savez que la plante sauvage est plus petite que ça, avec une tige moins lourde, mais l'humain, en développant des variétés à grosses fleurs, a aussi créé une plante pas très solide. La plante ne se tient pas assez debout. Il existe même, vous trouverez ça sur l'Internet des fois, des supports qui vont autour du bulbe avec une comme extension plastique rond qu'on peut comme clipser comme ça. Autour de l'eau du bulbe et au bas de la tige pour la tenir debout. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je n'ai jamais essayé. Ça se peut. Mais normalement, on va toujours mettre une soutane. Évidemment, ça, ce n'est pas les grands gléoles. Il existe des gléoles nains. Et les variétés naines n'ont pas besoin nécessairement de ce tuturage-là. Leurs fleurs sont moins lourdes. Et donc, normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la plupart du temps, quand on cultive des gléoles, le tuturage devient obligatoire.
Louise Messier-Luciani. Des boutures de colleus. Est-ce que... Attends, j'ai perdu la question, ça a bougé, donc je reviens. Est-ce que c'est correct de laisser la plante exposée au soleil ou c'est préférable de l'éloigner du soleil? Opérate de patio au sud.
Bon, écoutez, coléus, là, c'est pas la plante la plus compliquée à faire pousser. Elle n'aime pas sécher, c'est certain. Elle n'aime pas le foie non plus. Et pour le reste, presque tout peut aller. Donc, avec cette plante-là, les boutures le donneraient un bon éclairage. Même si la plante peut tourner l'ombre, vous voulez que la bouture parte bien, je donnerais un bon éclairage pour que ça parte bien. Et même le soleil, c'est pas trop. Hein. L'hiver, là, le soleil, regardez, les journées comme aujourd'hui, il n'y a pas de mal là-dedans. Plus tard, certains coléus n'aiment pas le plein soleil. Et c'est de moins en moins vrai. La plupart des variétés modernes tournent le soleil ou l'ombre. Donc, mais à l'extérieur, on peut les mettre à l'ombre. À l'intérieur, on peut les avoir au soleil ou la mi-ombre pour avoir une belle croissance. Surtout les boutures. Parce que les boutures, on veut que ça pousse, que ça prenne racine et ça commence à se développer. Voilà.
Jocelyn Engelhardt, est-ce qu'il existe des thermomètres pour mesurer la température du sol?
Oh, absolument. Je pense que si vous cherchez, surtout sur l'Internet, vous en trouverez. Ou encore dans certains centres jardins, je pense qu'ils en vendent. Ou sinon, prenez une thermomètre à viande. Ça donne la température. Hein? Donc, avec ça, on peut le plonger. Pensez, les fabricants de produits pour le compost vendent souvent ce genre de produits-là. Parce qu'on veut savoir quelle température est notre compost. Vous devrez trouver, sans trop de difficulté, un thermomètre qui convient.
Manon Frève, j'ai acheté un petit tapis chauffant de marque Jiffy pour mes semis. J'aimerais connaître le degré de chaleur que le tapis doit atteindre parce que je constate que la chaleur qui s'en dégage est très, très minime au toucher.
En autant que je sache, ces appareils-là sont réglés à 21 ou 22 degrés Celsius. Donc, je me trompe. Ce qui est une bonne température pour la germination de la plupart des plantes. Maintenant, oui, c'est pas beaucoup. Oui, mais n'oubliez pas si une plante est sur un rebord de fenêtre, par exemple, la température du sol est beaucoup plus froide que la température de l'air à cause de l'évaporation. Ce qui fait que les semis ont des difficultés à partir des fois. Parce que ce n'est pas la température de l'air, c'est le sol qui devient frais. Quand vous placez une plante sur un tapis qui chauffe, vous ne voulez pas que ça fasse partir tout l'eau. Là. Vous voulez que ce soit chaud, relativement chaud partout. Donc, ça chauffe doucement, mais également, et ça aide à faire germer. Beaucoup de plantes ont de difficultés à germer quand on n'a pas ça, surtout quand on a se les faire germer tôt. C'est moins un problème rendu au mois de mars, avril, mai, où le rebord de fenêtre commence à chauffer. Mais janvier, février, très utile. Le tapis chauffant, très utile.
Manon Frève, bonjour, j'ai acheté un petit tapis... Ah non, excusez, c'est celui-là que je viens de lire, désolé. Anne-Marie Gélina, comment faire pour bouturer un anthurium? Le mien n'a que deux tiges qui sortent du sol, bien que la tige soit de 40 cm de haut avant la naissance des tiges florales.
Vous le bouturez comme n'importe quelle autre plante. coupé. Et non poté. Juste pour dire, la plante fait des racines aériennes tout le long de la tige. Ça ne prend pas de temps à faire des racines à cette plante-là. Donc, voilà, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est que la plante est presque toujours en fleur. Donc, on dit, oh, je ne suis pas pour le couper là. Mais à un moment donné, il faut, si vous voulez le bouturer, c'est ce qu'il faut faire. Donc, enlever les fleurs, parce que quand on veut forcer une plante à faire des racines, il ne faut pas lui faire de la compétition. Et les besoins des fleurs en minéraux et en sel est grande. Donc, on va éliminer les fleurs, parce qu'on peut pas en faire d'autres, hein, la nouvelle plante. Donc, vous allez couper la plante la longueur de tige que vous voulez. J'en ai une que j'ai bouturée il y a un an peut-être. J'ai pris peut-être 20 cm environ. Et j'ai enlevé des feuilles inférieures. Il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai mis dans ce terreau. Pour cette plante-là, c'est une des rares plantes où je trouve que les terreaux artificiels qu'on utilise d'habitude est un peu trop lourd. C'est drôle de dire, hein, parce que ce n'était pas un terreau très lourd. Mais un peu trop dense pour cette plante-là. Fait que moi, j'ai pris l'habitude, quand je rempote ou que je fais les boutures, avec avec un anthurium, quand je fais ça, je mélange moitié-moitié avec un terreau pour orchidée. Donc, le terreau pour orchidée m'en coûte plus cher, mais c'est une meilleure aération. Et je mélange moitié-moitié avec mon terreau, l'empotage habituel. Et là, j'ai un terreau parfait pour les anthuriums, pour le bouturage ou pour le rempotage.
Sylvain Boudreau, une feuille de Montera sans nœud peut raciner, mais ne fera jamais de plant. Pouvez-vous me confirmer?
Oui, ça c'est très courant. Ben, très courant. C'est quand même bizarre. Il faut dire que c'est bizarre. Mais il y en a plusieurs plantes. On appelle ça des feuilles bornes. Bornes, ça ne fait pas de plant. C'est que pour pouvoir faire probablement une nouvelle plante, plante entière avec des racines, tiges, fleurs, feuilles, etc., il faut qu'il y ait un bourgeon qui peut devenir une plante. Certaines plantes, on peut faire ça. On peut prendre une bouture de feuilles d'une ville tropicaine et presque n'importe quelle cellule d'une ville tropicaine est un bourgeon adventif comme lui. Donc, la plante peut faire, même une section de feuilles, ça fait des racines, puis bientôt une plante entière. Sédum, même chose. Il y en a plusieurs où on peut faire des boutures de feuilles. Par contre, d'autres plantes, la plupart des plantes, non. On ne peut pas, par exemple, bouturer une feuille d'érable et obtenir un érable. Ça ne donnerait même pas de raisin. Mais certaines plantes tropicales ont un effet bizarre. C'est qu'elles sont capables de faire des racines à partir d'une feuille, mais sans donner de plantes. Monstera, c'en est un. Qui peut faire ça? Hoya fait facilement ça. Hoya va donner que une feuille, des racines, puis rien d'autre, si elle n'a pas pris une section de tige. Quoi d'autre? Quelles autres plantes sont bonnes? C'est quand même pas courant, mais ça existe. Les grands ficus, comme ficus elastica, le caoutchouc, c'est une plante qui fait la même chose, qui on peut faire facilement bouturer une feuille, mais ça n'irait pas plus loin que ça. Et les gens, des fois, attendent des années, ils ne comprennent pas, ça fait des racines, mais je n'ai pas de bébé. Et il aurait fallu avoir au moins un peu de tige. Par contre, OK, voilà. Supposons, par exemple, même avec un monstera, en prélevant la feuille, par accident, vous avez arraché une petite section de tige. Là, ça pourrait faire prendre racine et faire une deuxième plante. Mais ça prend, dans le cas du monstera, ça prend un bourgeon adventif sur la tige. Sur une plante caoutchouc, même chose. Il y en a à base de la feuille, mais il faut le prélever en même temps. Oui, il y a la même chose. Ces plantes-là, les feuilles donneront une bonne plante s'il n'y a pas de bourgeon adventif qui est resté attaché. Voilà.
Jocelyne Engelhardt a une autre question. Quelles sont les fleurs qui attirent le plus les colibris?
Ça, par exemple, je ne pourrais pas vous faire une liste au complet. Il y en a plein. Les colibris cherchent des fleurs. Surtout riches en nectar. C'est ce qu'elles recherchent. La croyance populaire est que les pas vu de sont attirés par des fleurs rouges. C'est pas vrai, mais ils sont pas. C'est pas qu'elles ne sont pas attirées par le rouge. Elles sont attirées par d'autres couleurs autant. Pourpre, rose, blanc, toutes les couleurs qui vont attirer les colibris. Pourquoi on a dit associé avec le rouge? C'est que les insectes ne voient pas le rouge. Les insectes pollinisateurs ne voient pas le rouge. Donc, quand on voit une fleur rouge, il n'y a rien que les colibris qui le fréquentent. On dit, ah, ça y est, ils sont attirés par le rouge. Non, elles vont sur les autres plantes aussi, mais il n'y a que les colibris qui vont sur les fleurs rouges. Donc, voilà, c'est l'explication pour ça. Habituellement, les colibris vont chercher les plantes riches en nectar, tubulaires, parce que le long bec, ça sert à quelque chose, chercher le nectar au fond. On va chercher les plantes avec une longue période de floraison, parce qu'elles sont là du début de l'été jusqu'à presque la fin. Donc, ça prend ça. Et entre autres, quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Le monarde, bien, qui est bien connu comme plante de colibri. Le Kufia, moi j'ai un succès fou avec le Kufia, C-U-P-H-E-A, Kufia, vermillionnaire. Vermillionnaire. Cette plante-là chez moi, c'est la plante de colibri. Il y en a plein d'autres. J'ai déjà publié des listes sur le site web jardinparisseux.com. Là, vous pouvez trouver des listes plus courtes, même très longues, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui les attirent.
Denis Marin, pourquoi ne voit-on jamais de butineurs dans des plantes comme le perlogallium et les pétunias?
Ça doit être parce que il n'y a pas d'insectes attirés spécifiquement par ces plantes-là dans notre région. Pour ce certain, quelque part, il y en a. J'ai remarqué que les pélargoniums des anciennes sont des géraniums. Il me semble que je vois des insectes butiner ces plantes-là. Tandis que pétunia, ben je sais que les colibris les aiment. Surtout le cultivar d'espèce excerta qui est carrément une plante de colibri. Mais je n'avais pas remarqué que d'autres plantes ne les visitaient pas. Aussi, une possibilité également. Des fois, l'homme modifie la plante et sa fleur pour que ce soit plus beau. Mais peut-être que ça ne donne plus de pollen, il n'y a plus de nectar. Ça prend pas. Si vous achetez une pétunia, est-ce que vous posez la question, est-ce que cette variété-là donne beaucoup de nectar? Est-ce que cette variété-là a du pollen? C'est pas une priorité. Et donc, ça se peut bien que certaines variétés n'offrent pas grand-chose à manger aux insectes.
Tu as parlé tantôt des coléus. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question-là dans ta longue réponse, mais Annie Legault veut savoir si les coléus peuvent aller dehors environ quand?
Mois de juin, certain. Ça dépend où vous êtes. Peut-être un peu plus tôt. C'est absolument pas le froid. Il faut attendre que ce soit réchauffé. Tous les ans, les gens sortent. Dès qu'il fait le moindre beau, ils sortent le coléus et là, deux jours plus tard, ils sont morts. C'est bien plate, ça. Ça ne tolère pas du tout le froid. Attendre qu'il n'y ait plus de fraîcheur. Dès que les températures s'entendent de 12 la nuit, est plus ou moins fiable, ça, c'est un bon moment pour les sortir. Mais dans beaucoup de régions, c'est début de juin, mi-juin, avant qu'on soit rendu là.
Pierre-Luc Poisson, combien d'asperges peut-on espérer récolter à partir d'un seul griffe? Ou d'une seule griffe, pardon.
Jamais compté, hein? Et ça dépend des années. Ouais. Bon, je ne peux pas vous dire. Ça dépend des années. C'est sûr que la plante produit peu au début. Première année, on ne récolte pas. Deuxième année, on récolte peut-être un trillion. Troisième année, on récolte modeste. Et ça va augmenter. Et c'est quoi le maximum? Je ne sais pas. Vraiment pas. Je n'ai jamais cultivé assez assidûment cette plante-là. D'ailleurs, c'est curieux de dire parce que vous ne voyez pas, mais il y en a une juste derrière la fenêtre ici. Non, moi, moins de ce genre de moucher, bon pour partir des plantes, moins bon pour récolter. Ça, c'est mon épouse qui fait la récolte. On dévisse ça. Voilà.
Partage des tâches, qu'on appelle. Donc, Tommy Gagnon, est-ce qu'on peut trouver la plante champignon au Québec?
Oui, je l'avais. je l'ai essayé et je l'ai abandonné parce que c'est une plante qui est supposée avoir un goût et une texture de champignon, ce qui est plus ou moins vrai. Mais mon épouse ne l'a pas aimé. C'est elle qui fait surtout les cuisines. Ce qui fait que j'ai comme abandonné. Ce n'est pas difficile de cultiver une plante verte. Moi, je l'ai acheté au printemps dans un centre de jardin, une jardinerie, et je l'ai cultivé tout l'été. Je l'ai rentré l'automne, je l'ai bouturé, j'ai essayé une deuxième année. Mais même mes petits-enfants n'ont plus voulu en manger. Et quand je suis rendu que je suis le seul qui est prêt à manger quelque chose, je pense à autre chose. Fait que, qui l'aura? Il faudrait trouver peut-être dans votre région qui fournit les fines herbes pour les jardineries. Parce que cette plante-là est disponible. Il s'agit de savoir où. Voilà.
Une autre question de Louise Messier-Luciani. J'ai une grosse plante d'aloès qui a fait plein de bébés. Est-ce qu'on peut considérer les laisser ensemble ou c'est préférable de les séparer?
On peut les laisser ensemble, si vous voulez. Vous pouvez les séparer. C'est une question de choix. C'est sûr que les laisser, ça fait un peu de compétition. Par contre, c'est pas une plante habituellement où on veut que ça pousse vite. On a besoin d'une feuille de temps en temps pour une blessure. Fait que, quand vous avez une plante et plein de bébés, on est grandi. On n'a pas besoin d'avoir une prolifération extraordinaire. Vous pouvez laisser ensemble, si vous voulez. Et si, s'il vous plaît, d'avoir de grosses plantes toutes seules dans son pot, ça, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Vous décidez.
Il y a un commentaire de Geneviève Poupard qui dit qu'elle les laisse ensemble et elle se porte très bien jusqu'à ce que le pot soit trop petit.
Oui, ça devient très lourd. Hein? Moi, j'en ai un que je vais bouturer bientôt. Normalement, on ne bouture pas en aloès. Là, on parle de l'aloès vera, la plante médicinale. Parce que d'autres aloès ont des vraies tiges qu'on peut bouturer. Mais normalement, on ne bouture pas en aloès vera parce que c'est une plante à rosette. Elle ne fait pas de tronc, elle ne fait pas de tiges de racines. Mais vous savez, quand votre plante est vraiment vieille, comme la mienne qui a 30 ans et plus, je ne sais pas quel âge, je peux bien voir exactement. Et avec ce qui arrive, c'est que la plante pousse, presque pas de tige, mais à force d'enlever les feuilles inférieures, parce qu'elles brunissent, on dégage un peu de tige. Et la plante commence à pousser sur le côté dans ce cas-là, parce que dans la nature, elle ne veut pas pousser tout droit, elle n'a pas la force pour ça, fait qu'elle devient comme rampante à l'avant. La partie extrémité est toujours dressée, mais elle pousse un peu comme ça. Le problème, dans une pot, vous avez une plante très lourde qui pousse légèrement hors du pot et qui ne tient pas debout. Donc, ça devient un peu plate. Donc, mon but dans les prochaines semaines, c'est de couper la tige et la faire enraciner. Et je joue toujours là, tout sorte de bébé au cas où que ça ne réussit pas. Mais je l'ai déjà bouturé une grande aloès, c'est bien été. D'ailleurs, la mienne fleurit deux fois par année. J'ai touché des fleurs. Donc, elle est vraiment énorme. Mais elle a besoin d'être recentrée dans une peau, par contre, c'est certain.
Thérèse Forin a dit « Je viens de recevoir le catalogue de Lindenberg au Manitoba. Est-ce que c'est un bon endroit pour faire des achats? »
Je ne l'ai jamais fait moi-même, mais la plante est annexe. La compagnie annexe notre réputation et ça existe depuis longtemps. Une compagnie qui existe depuis longtemps, c'est toujours plus sûr. Donc moi, je penserais que vous n'aurez pas de problème avec ça. On la connaît moins au Québec, mais la plante est quand même réputée pour les résultats intéressants.
Par rapport à la question de Mme Forrand, j'ai moi-même une question. Est-ce que les catalogues, quand elle dit qu'elle reçoit, je comprends qu'elle le reçoit papier, mais est-ce qu'il existe l'équivalent web pour avoir accès aux mêmes choses qu'on aurait sur papier?
Oui. Évidemment, tout a changé. Hein? Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de catalogue web. Ou 25 ans, je ne sais pas quoi. Il n'y en avait pas. Mais tranquillement, c'est venu. Et beaucoup de compagnies produisent encore un catalogue papier. Pensez à WH Perron, par exemple. Produit quand même un catalogue papier depuis longtemps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais produisent encore ça. Donc, on peut le recevoir. à la poste. Ils font aussi un catalogue web. Donc, et c'est pas seul, il y en a plein. De plus en plus de compagnies font plus de papier que catalogue web. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est disponible chez eux, il faut aller sur le site web pour le savoir. Donc, j'imagine que éventuellement, toutes les compagnies vont finir par faire ça. L'un d'exemple, Stokes, c'est une compagnie ontarienne, mais une grosse compagnie ontarienne, qui fournit des fermiers plus qu'autre chose. Stokes, après, pour 80 ans, je pense qu'ils ont 80 ans, ont fini cette année-ci pour éliminer les catalogues imprimés. Ils ne sont plus que sur web. Et ça va être de plus en plus comme ça. J'imagine que les papiers, tout le papier, va tranquillement disparaître.
Louise et Messier Luciani, une autre question. Un gros Clivia, quelle est la période idéale pour leur donner de l'engrais pour ces floraisons?
La plante commence à prendre une tige florale, souvent au cours de l'hiver, peut même fleurir au cours de l'hiver. Mais elle fait ça en partie de ses réserves. Parce que dans le fond, lors de la floraison, dans un cas semblable, la plante n'est pas en période de croissance. Ça arrive, les plantes qui fleurissent en dehors de la période de croissance normale. Donc, idéalement, vous donnerez l'engrais quand même. On peut presque toute plante entre le printemps et la fin de l'été et début d'automne. Voilà.
Diane Cossette, si j'ai des semences de fleurs qui datent de plusieurs années, sont-elles encore bonnes à semer?
Comme ça, je peux vous dire. Il se trouve que la plupart des semences qu'on nous vend, sachets de papier, là, sont bonnes pour au moins 3 ans, 3 à 5 ans, on pourrait dire, en général. Mais, c'est pas une garantie, certaines ne durent pas très longtemps, les carottes, c'est pas les oignons, pas très durables. Mais la plupart des autres, oui. Donc, 3, 4, 5 ans, souvent c'est encore bon. Mais avec les autres, on ne sait pas trop toujours. J'ai déjà publié une liste qui donne des dates moyennes, même c'est une longue, longue liste, je pense. Allez sur rodneyperesso.com, vous allez voir une liste. Mais ça dépend comment on les entretient aussi. Parce que si vous gardez les semences à l'humidité, ça ne durera pas. Au sec, ça dure plus. Si on les garde frais et secs, oh, là, vous approchez vraiment de préférence pour les semences. Alors, ce que je fais avec les propres sachets de semences, en trop, je le recèle, je fais un bocal style Tupperware avec un petit sachet de gel de silice pour assécher l'air et ferme ça, je mets ça au frigo. Au frigo, c'est frais. À cause du sachet de gel de silice, c'est sec. Et j'ai des semences, des fois, de 10 ans et plus. Donc, on bonne. C'est ça.
Thierry de la Vallée, mes bleuets et caméris semblent avoir du mildiou ou blanc. Je ne suis pas certain. Aucun fruit et feuilles grisées. Je dois faire quoi au printemps pour aider?
Parce que c'est sûr que ce n'est pas la même maladie. Dès le départ, deux plantes pas apparentées n'ont pas la même maladie. Mais il y a des formes, quand j'ai innombrables, je pense que je peux le dire, innombrables de blancs et presque autant de mildiou. Donc, c'est deux formes différentes de la même maladie ou deux maladies différentes, impossible de dire comme ça. Si, si c'est le dessus de la feuille qui blanchit, ça serait plutôt du blanc. On appelle les foires, quoi, ou un autre nom pour ça. Mais le blanc, c'était plus courant. Habituellement, le mildiou, c'était l'envers de la feuille, qu'on voit de la mousse qui se forme. C'est comme ça qu'on peut les distinguer. Comment prévenir ça? On peut juste donner les meilleures conditions possibles. Souvent, ces maladies foliaires ne visent pas trop la plante, mais vous n'avez pas de fruits. Ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est vraiment trop humide dans le coin? Dans la question que je me pose, il existe quand même des fongicides. Il faut les réappliquer encore et encore. Puis en plus, il ne faut pas les appliquer pendant que la plante est en fleur. Sinon, vous n'aurez pas de pollinisateur. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà.
Caroline Landry, quelle est la meilleure terre pour une serre extérieure de légumes. Le mélange parfait, disons.
OK. Là, vous
avez...
La question, est-ce que le cultive en terre ou est-ce que le cultive en... dans un pot? Parce que moi, je dis très honnêtement, j'aime beaucoup les terreaux dits artificiels. Je trouve certaines valeurs qu'on les appelle comme ça parce que c'est tous des ingrédients réels qu'on trouve à l'intérieur. Mais ce n'est pas un terreau, une terre achetée, une terre de jardin. Une terre de jardin est trop lourd pour la culture en pot. Ça se compacte, pas intéressant pour les plantes. Et ça transmet des maladies aussi. J'aime bien ces terreaux-là. Mais là, si vous cultivez en pleine terre, c'est une autre façon de faire. Parce que dans une serre, on peut faire l'un ou l'autre. Moi, j'ai, dans une serre, j'ai toujours cultivé en pot. Donc, on va présumer que c'est ça que vous avez en tête. J'irai vers un de ces terreaux, style ProMix, qui sont réputés, qui ont une bonne réputation. Vous pouvez acheter du compost. Et au moins, vous avez un produit qui, que les gens trouvent donne des bons résultats.
Joanne Guy, la plante champignon se bouture facilement. Moi, j'ai bien aimé le goût cuit et cru, acheté au Centre Jardin à Compton.
Ah, voilà. Donc, voilà, elle a trouvé ça à Compton. Mais moi, je l'ai trouvé à Sainte-Foy. Et je mèche à quelque part au Québec. Il y a un fournisseur. Et c'est lui qui vend ses plants. Mais ça va être un producteur de fines herbes. Je suis des producteurs de fines herbes qui vend au Centre Jourdain. Quand je trouverai ça, vendre des plants même, peut-être par des groupes comme Amazon, on trouverait quelque chose. Mais, il y a peut-être Richter's. Pendant qu'on parle, je vais essayer de voir ça. Richter's, c'est une compagnie de l'Ontario qui c'est des grands fournisseurs de fines herbes au monde. Au monde, n'exagère pas. Et donc, cette compagnie-là vend plus de fines herbes que n'importe qui. Donc, on va voir. Mais c'est en anglais. On s'appelle Mushroom Plant. On va essayer ça. Mushroom.
Qu'est-ce qu'ils disent? La recherche live, comme on dit.
Et là, ils ne lisent pas. Donc, les autres, ils ne s'en veulent pas la voir. Voilà. Il va falloir chercher localement. À Compton. On va tous aller à Compton. Voilà.
OK. J'essaie de trouver une question. OK. Oui. Ginette Brassard dit qu'elle avait déjà posé une question puis qu'elle n'avait pas eu de la réponse. Madame Brassard, on s'excuse probablement que c'était par manque de temps. Et donc, la question étant... j'avais demandé des conseils pour semer des graines de ricin pour les gros verts gris dans la pelouse. Et là, c'est là qu'elle dit qu'elle n'a jamais eu de réponse. Là, mais donc, c'est ça sa question.
Moi, je n'utilisais pas le ricin parce que c'est beaucoup trop toxique. Il ne faut pas faire ça. D'ailleurs, le problème en question, ce n'est pas les graines, c'est les résidus de ricin après la production de l'huile de ricin. C'est pas disponible au Québec. Je sais que vous êtes au Québec, vous n'en trouverez jamais. Mais c'est beaucoup trop toxique. Je sais, en France, on s'en sert. Mais moi, je suggère d'éviter ça. Pas toxique pour les plantes. C'est pour nous, trop de risques pour les êtres humains et les animaux. Et que moi, je ne pense pas que ce soit un produit à utiliser. Ça, est-ce que ça tue même des vingris? Je ne sais même pas. Parce que ce n'est pas une plante de vie que j'ai pu expérimenter. C'est absolument pas disponible. Pas disponible du tout au Québec.
Une autre question sur les aloès vera de Anne-Marie Gélina. Elle dit, mes aloès vera n'ont jamais fleuri. Comment faites-vous?
Pas si facile. Je fais rien. c'est une question de temps. Quand on achète un aloès vera, c'est une petite plante dans un pot. Ça fait souvent beaucoup de bébés. Puis quand elle fait beaucoup de bébés, elle n'a pas porté à fleurir. À un moment donné, elle arrive 7-8 ans plus tard, elle arrive au point où un plant commence à dominer, les autres commencent à céder, et quand cette plante-là arrive à une certaine force, là, il va avoir une tige fleurale. Et ça peut prendre encore 7-8 ans minimum, et 10-12 même. Et une fois que ça arrive à ce stade-là, là, vous avez une grosse plante, elle fait ça de long, ça, c'est le mien, comme ça. Ça finit par fleurir tous les ans, et même deux fois par année. Et c'est une question énormément de patience. Ça va arriver, mais loin, loin dans le futur. C'est pas du jour au lendemain. On peut toujours enlever les vues pour essayer de stimuler la plante à pousser davantage. Mais ça prend quand même beaucoup de patience.
Geneviève Poupard, avez-vous des références, livres ou sites web, au sujet des plantes comestibles au Québec et au sujet des plantes médicinales?
Ah, si vous avez des plantes comestibles, bon, écoutez, il y a tellement de livres et tellement de sites web. Cherchez vous-même. D'ailleurs, je ne suis pas à jour dans mes livres parce que c'est sorti beaucoup depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai publié moi-même le protégé l'an dernier. Il y en a plein qui sont sortis. Donc, vous cherchez vous-même, vous trouverez des choses. Côté des plantes médicinales, ça aussi, on peut trouver des choses. Personnellement, je ne suis pas du tout expert dans les plantes médicinales et je ne m'y mêle pas. C'est pour les médecins, les gens qui s'y connaissent. Et j'ai un peu peur, des fois, des affirmations sur certains sites web, utiliser telle chose et telle chose, sans même faire voir que la personne voit un médecin. Moi, je ne suis pas fort là-dessus. Donc, quand je mentionne qu'une plante est une plante médicinale, souvent dans mes textes, je le dis comme ça. Et c'est une plante médicinale, utiliser, ne donne pas de détails. Je ne recommande pas d'utiliser des plantes de façon médicinale sans avoir fait une très bonne recherche et s'assurer que son médecin à soi est d'accord.
Possiblement, la dernière question, on va y aller rapidement. Joël Maltais, existe-t-il un truc pour germer du thé des bois? Galteria procubène. J'ai fait des semis successifs avec des semences qui ont été au frigo entre 4 et 8 semaines. Aucun n'ont germé.
Ah, vous savez que les arbustes, là, ça se prend de dire qu'une Galteria, un thé des bois, c'est un arbuste, mais c'est une petite arbuste. Une plante ligneuse, c'est du bois. C'est un arbuste. Sans difficile, en général. Moi, ce que je suggère dans un cas, il y a une plante qui vient du Grand Nord, encore plus, ces plantes-là. Moi, je suggère les semis, faire un traitement au foie, deux mois, trois mois. Après, c'est de la chaleur pendant deux, trois mois. Le remettre au foie deux, trois mois, les ressortir deux, trois mois. Et à force de faire les répétitions chaud et froid, habituellement, on y arrive. Et avec ça, on arrive à la fin de l'émission. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à visiter le site web jornéeparasud.com. Et je remercie bien sûr chaque semaine les collaborateurs Michel Bédard et Sekaya Alain Bordelot. Donc, bonjour tout le monde et bon jardinage.
Vous écoutez Sekaya 88.3 Radio Urbaine. Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Sherpa présente Crash ton COVID.
Jean-François Maire.
J'ai vu le grand héron, le raton et le rat. Je vois la folie comme on boit son café et la rivière qui coule sans qu'on la nomme. Je vois un carrefour où se jette l'humanité. Je vois l'angoisse d'aimer. J'ai vu l'Acadien perdu dans sa boule de Noël. Elle ne veut pas se laisser déposer la neige en hiver. Tous ces courants, 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 itinérants. J'ai vu le grand héron, le raton et le rat. Je vois la folie comme on boit son café. C'est une folie d'aimer.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Et qu'est-ce que je fais?
Allez sur ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Oh, je me sens tellement mieux, là!
Bonjour, ici Iliari.